Atlantique Mobile, l'appli de Banque Atlantique, intuitive et performante, vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient jusqu'à 9h, temps universel. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans 30 minutes, vos témoignages, et ils sont très nombreux ce matin après les pluies diluviennes qui se sont abattues vendredi et samedi sur la capitale de la République démocratique du Congo, provoquant d'importantes inondations. Dans certains quartiers de Kinshasa, les rues se sont transformées en torrents de boue. Les dégâts matériels sont considérables et le bilan humain est particulièrement lourd, au moins 30 morts selon un bilan encore provisoire. Alors racontez-nous comment s'organise la prise en charge des sinistrés, comment gérez-vous vous-même personnellement cette situation exceptionnelle, et la question que tout le monde se pose évidemment, c'est de savoir quelles leçons il faudra tirer de ces importantes inondations, d'autant que le phénomène est récurrent à Kinshasa. Vos témoignages, vos commentaires, vos analyses, 33 9 693 693 70, et on lit le plus grand nombre de commentaires envoyés sur nos réseaux sociaux. Mais d'abord, vous le savez, c'est votre rendez-vous avec la rédaction de RFI. Ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. On va commencer avec des questions sur la guerre en Ukraine. Bonjour Amat.
Bonjour Juan, bonjour à la dynamique équipe d'appel sur l'actualité.
Merci de vos encouragements. Vous êtes à Mao, c'est à peu près au centre-ouest du Tchad. Quelles sont vos questions, Amat ?
Juan, j'ai entendu votre correspondante à Pékin dire que la Chine était prête à jouer le rôle de médiateur dans la guerre en Ukraine. Ceci étant, quels intérêts la Chine pourrait-elle trouver dans cette médiation, Juan ?
Ah, bonne question que vous posez. La Chine peut-elle aider à obtenir un cessez-le-feu, voire un accord de paix durable entre la Russie et l'Ukraine ? Bonjour Cléa Broderst.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous êtes la correspondante permanente de RFI à Pékin. La semaine dernière, le ministre chinois des Affaires étrangères était à Moscou et il a déclaré effectivement que son pays était prêt à jouer un rôle constructif pour mettre fin à la guerre. Expliquez-nous, Cléa, pourquoi la Chine veut-elle se positionner comme médiatrice ?
Eh bien, pour la Chine, se poser en médiatrice est avant tout une manière de renforcer son image de grande puissance diplomatique. Elle veut apparaître comme un acteur de paix, capable d'ouvrir le dialogue là où l'Occident est perçu comme, eh bien, bloqué dans une logique d'affrontement. Mais c'est aussi une stratégie, c'est-à-dire qu'en défendant un monde multipolaire, eh bien, la Chine cherche à contester la domination des États-Unis sur l'ordre international. Mais il y a aussi des raisons un peu plus concrètes. Cette guerre, on le sait, déstabilise l'économie mondiale, elle fait grimper les prix de l'énergie, elle freine le commerce international. Or, tout cela freine aussi la croissance chinoise et donc la Chine a tout intérêt à une désescalade, surtout si elle peut en sortir renforcée sur la scène mondiale.
Et la Chine peut-elle vraiment tenir ce rôle de médiatrice ?
Eh bien, elle a plusieurs cartes en main pour le faire. Elle entretient des relations étroites avec Moscou, tout en essayant de maintenir le dialogue avec l'Europe. Elle a même proposé un plan de paix dès 2023. Donc, c'était un texte en 12 points qui appelait à un cessez-le-feu et à des négociations. Mais ce plan, eh bien, il avait été jugé trop vague et surtout beaucoup trop proche des positions russes. Cela dit, sur le plan économique, la Chine est devenue un partenaire incontournable pour la Russie en raison des sanctions occidentales. Elle pourrait donc, en théorie, si elle le souhaitait, exercer une certaine pression sur Moscou. Et elle pourrait aussi proposer une aide à la reconstruction de l'Ukraine, ce qui serait un moyen de s'affirmer comme puissance responsable.
Oui, reste avec nous, Cléa Broderst. Amat a une dernière question à vous poser. Allez-y.
Comment la Chine pourrait mener des négociations, sachant qu'elle est proche de la Russie ?
Ah, c'est vrai qu'officiellement, Cléa Broderst, la Chine est neutre hein, sur cette guerre en Ukraine, et en même temps, on sait bien qu'elle a des relations très étroites avec Moscou.
Bien, c'est justement là toute l'ambiguïté de la position chinoise. En fait, Pékin n'a jamais condamné l'invasion. Elle parle d'un, je cite, « conflit plutôt que d'une guerre ». Et elle continue de renforcer sa coopération avec Moscou, on le sait, hein, que ce soit sur le plan énergétique, économique ou diplomatique. Et donc cette proximité, eh bien, ça limite sa crédibilité auprès de Kiev et des capitales occidentales, eh bien, comme vous le disiez, qui doutent de sa neutralité. Mais c'est aussi ça qui pourrait lui donner une forme d'influence. Parce qu'en fait, la Chine est l'un des rares pays qui peut encore parler directement à Vladimir Poutine et un des rares par pays dont la Russie ne peut pas se passer. Elle peut donc jouer ce rôle un peu plus discret, en coulisses, qui pourrait inciter à la retenue ou en faisant passer certains messages, sans forcément apparaître comme un arbitre officiel. On peut donc dire que Pékin avance, on va dire, prudemment. Elle ménage ses alliances tout en se plaçant comme un acteur incontournable au cas où il y ait de futures négociations.
Ouais, je le disais en préambule, cette visite du ministre des Affaires étrangères chinois la semaine dernière à Moscou, il a évoqué donc un rôle constructif tout en précisant que Pékin tiendra compte, je cite, des aspirations des parties concernées. Que faut-il lire entre les lignes, Claire Broadhurst ?
Eh bien, c'est là où c'est intéressant. On bascule dans une forme d'ambiguïté stratégique. La Chine ne fournit pas d'armes, mais soutient Moscou, tout en appelant au dialogue. Et donc, ce double discours lui permet de ménager l'Europe, contester le récit occidental et surtout éviter toute sanction directe. Et donc, il y a là un projet de rééquilibrage global. Et en fait, c'est aussi un frein aux efforts occidentaux, mais aussi une stratégie bien pensée. La Chine se pose en arbitre non pas de ce conflit, mais pour les pays du Sud, avec ce message, nous défendons la souveraineté, pas les blocs. Et cela, eh bien, ça résonne pour beaucoup de pays. Et puis, il y a aussi un enjeu de calendrier. Xi Jinping doit se rendre en Russie au mois de mai. Et c'est une visite qui est très symbolique que les deux pays comptent utiliser pour afficher leur unité face à l'Occident.
Eh bien, on suivra cela. Merci infiniment. Amat, a-t-on répondu à vos questions ?
Parfaitement.
Eh bien voilà, vous avez entendu la correspondante de RFI à Pékin. Eh bien, elle vous a répondu personnellement ce matin sur RFI. Ça se passe comme ça le matin à 8h10, temps universel. Je vous souhaite une bonne journée à Mao. Amat, merci à vous de votre fidélité et une bonne fin d'après-midi à Claire Broadhurst à Pékin. Merci à tous les deux. 10h17 à Paris, on repasse très vite au standard. Bonjour Isaac.
Bonjour Anne.
Vous êtes à Lubumbashi en République démocratique du Congo et vous avez des questions sur une fausse information qui circule sur les réseaux sociaux et qui concerne votre pays, la République démocratique du Congo.
Oui, sur les réseaux sociaux, j'ai entendu de faux audios affichant les logos de la RFI dans lesquels Corneille Nanga demandait pardon aux Congolais. Au début, j'y ai vraiment cru, alors je me demande comment s'assurer qu'une information provient bien de la RFI.
Oui, effectivement, bonne question. Comment démasquer ces faux audios attribués à tort à RFI ? Bonjour Grégory Genevrier.
Bonjour Juan, bonjour Isaac.
Merci de nous rejoindre, journaliste à la cellule Info Vérif de RFI. Vous avez travaillé sur ce faux journal attribué à RFI. Pour planter le décor, Grégory, donnez-nous le contexte de cette fausse information.
Eh bien, cet audio attribué à tort à RFI, il est apparu sur WhatsApp en début de semaine dernière, aux alentours du 2 avril. Durant 4 minutes et 44 secondes, on y entend plusieurs voix synthétiques se succéder. Comme dans un vrai journal, on y entend d'abord la voix d'un présentateur qui ressemble fortement à celle de notre journaliste au service Afrique, Arthur Ponchelet.
Dans une annonce surprenante, Corneille Nanga Yobeluo, ancien président de la commission électorale nationale...
S'ensuit une prétendue déclaration de Corneille Nanga, le coordinateur de l'Alliance Fleuve Congo, dont fait partie le M23.
Moi, Corneille Nanga Yobeluo, me tient devant vous, accablé par...
Et l'extrait se termine enfin avec une imitation, cette fois de la correspondante de France 24 en RDC, Aurélie Bazara Kibangula.
Bonjour Arthur, ici c'est la stupéfaction, peu de gens s'attendaient à une telle volte-face de...
Oui, sauf que ces trois voix ont été générées par l'IA, par l'intelligence artificielle.
Oui, cet audio a été entièrement généré par IA, tous les propos ont été fabriqués de toutes pièces. En réalité, Corneille Nanga n'a pas présenté ses excuses au peuple congolais, ni annoncé qu'il allait déposer les armes.
Ouais, ce n'est donc pas RFI qui est à l'origine de ce contenu. Comment s'assurer, Grégory Genevrier, qu'une information provient bien de Radio France Internationale?
Eh bien, le seul moyen de s'assurer de l'authenticité d'un contenu siglé RFI, c'est de remonter à la source. Autrement dit, si l'audio ou l'article que vous trouvez en ligne ou sur WhatsApp n'est pas sur le site officiel de RFI ou sur nos réseaux sociaux ou sur notre antenne, eh bien, c'est une fausse information. Aujourd'hui, il est très facile de produire ce genre de faux contenu et d'y appliquer le logo d'un média, d'où l'importance de remonter à la source.
Ouais, j'ai demandé aux auditeurs hier sur la chaîne WhatsApp de RFI s'ils connaissaient justement les bons réflexes pour démasquer ces faux audios. Eh bien, la très grande majorité de ceux qui nous ont répondu ne le savent pas. Faut rappeler, Grégory Genevrier, que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas le premier faux extrait de RFI qui circule concernant la République démocratique du Congo.
Non, début mars, déjà une fausse édition spéciale attribuée à la Radio du Monde à circuler dans le pays. Cette Infox affirme à tort que Félix Tshisekedi allait démissionner après un accord historique entre Kinshasa et le M23, mais évidemment c'est faux. On y retrouve exactement le même mode opératoire avec une voix générée par IA accompagnée d'un visuel accroché. accrocheurs reprenant notre logo et notre charte graphique.
Y a-t-il un moyen de détecter soi-même s'il s'agit d'une voix générée par l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est possible?
Alors oui, c'est possible. Le meilleur conseil, c'est d'abord d'être attentif, observateur. Dans le cas de notre faux journal, la qualité sonore, le ton robotique et le grain de la voix sont douteux. Ça, c'est la partie analyse. Et puis, si on veut aller plus loin, il existe des outils de détection d'IA relativement fiables. À la cellule InfoVérif de RFI, on en utilise principalement deux qui sont gratuits et sans inscription. Je vous les cite, Hive Moderation et Deepfake Ometer, développés par une université américaine. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, mais si vous avez un doute et que l'outil assure que c'est de l'IA, eh bien, il y a de grandes chances que l'extrait soit un faux.
Hive Moderation et Deepfake Ometer.
Exactement.
Voilà pour ces deux outils que vous pouvez utiliser et qui sont gratuits. A-t-on répondu à vos questions, Isaac ?
Oui, merci beaucoup.
Bah, remerciez surtout Grégory Genevrier, journaliste à la cellule Info Vérif de RFI. À très vite, Grégory.
Merci.
Et vos explications sont à réécouter à tout moment sur l'application RFI Pure Radio, mais aussi sur notre chaîne WhatsApp RFI Appel sur l'actualité. Des questions maintenant, et on vous en parlait dans le journal de 8h, temps universel, des questions sur la crise diplomatique entre l'AES, l'Alliance des États du Sahel, et l'Algérie. Bonjour Latif.
Bonjour Juan.
Bienvenue, merci de nous écouter au Togo. Quelles sont vos questions?
Les pays de l'AES ont rappelé leur ambassadeur en Algérie qu'ils accusent d'avoir abattu un drone en territoire malien. Mais selon Alger, ce drone était dans l'espace aérien algérien. Mmh. Alors, que sait-on de cette affaire?
Alors, que sait-on de cet incident? Bonjour Akram Karieff.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et chercheur à la Fondation Rosa Luxembourg. Latif le rappelait à l'instant, les ambassadeurs du Mali, du Niger et du Burkina Faso à Alger ont donc été rappelés dimanche pour consultation. Après donc cet incident qui s'est produit dans la nuit du 31 mars au 1er avril, depuis, on le voit bien et on va en parler évidemment dans un instant à Akram Karieff, le ton ne cesse de monter entre Alger et Bamako. Que s'est-il passé ce jour-là avec ce drone malien?
Oui, dans la nuit du 1er avril, un drone malien s'est approché et a pénétré par deux fois l'espace aérien algérien. Il a été intercepté par une unité de la défense aérienne algérienne et abattu. Les restes de l'avion ont été retrouvés sur le territoire malien. Il s'agit, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien diffusé hier, de la troisième fois qu'un incident pareil se produit.
Troisième fois qu'un drone malien entre en territoire algérien, c'est ce que dit Alger. Donc, si on résume bien Akram Karieff, pour bien comprendre, parce que le dossier est complexe, le drone a été abattu en territoire algérien, mais, comment dirais-je, l'épave a ensuite été trouvée en territoire malien?
Oui, bien sûr, ce n'est pas la première fois que ce genre d'incident se produit. On a eu par deux fois en 2012 et en 2015 la même chose qui s'est passée en Syrie avec le Sukhoi 24 russe qui avait été abattu au-dessus de l'espace aérien turc, mais qu'on a retrouvé, dont l'épave a été retrouvée à 15 km à l'intérieur du territoire syrien. Ce sont des phénomènes normaux dus à l'aérodynamique, dus aussi à la continuité de service de certaines parties de l'avion qui font que parfois on retrouve l'épave à plusieurs kilomètres de l'endroit où elle a été touchée.
Ouais, bon, en tout cas, hier, Alger a dénoncé des allégations mensongères. Alger pointe l'incapacité des putschistes à assurer la lutte antiterroriste réelle et effective. Je cite là le communiqué des autorités algériennes. Le ton monte et on le voit bien puisque hier soir, l'Algérie a décidé de fermer son espace aérien à tous les appareils en provenance ou à destination du Mali. Dans la foulée, le Mali a annoncé la fermeture de son espace aérien aux avions en partance ou à destination de l'Algérie. Latif a d'autres questions à vous poser à Akram Karieff. On vous écoute, Latif.
Pourquoi les pays de l'AES dénoncent des provocations à répétition de la part de l'Algérie?
Alors, Akram Karieff, c'est vrai que bien souvent, l'AES pointe du doigt l'Algérie. Que se passe-t-il?
Oui, depuis le retrait du Mali des accords d'Alger, signés en 2015, le Mali a considéré l'ensemble des groupes politiques armée d'obédience islamiste ou non, ayant fait allégeance à des groupes terroristes internationaux ou non, comme étant des groupes terroristes. Il se trouve que parmi ces groupes-là, il y a des groupes qu'on appelle des groupes signataires des accords, qui sont au départ des groupes séparatistes et indépendantistes, mais qui ont gardé un caractère politique reconnu par la communauté internationale, qui ont reçu un soutien de la part de l'Algérie. Et le Mali considère que, à cause de cela, l'Algérie soutient ou soutiendrait le terrorisme.
Et d'ailleurs, dans ses accusations, Bamako est très clair. Hein, après la destruction de ce drone, les autorités maliennes de la transition affirment que l'Algérie, en détruisant ce drone, a voulu empêcher le Mali de neutraliser des mouvements terroristes.
Oui, ce sont les allégations des autorités maliennes. De notre côté, l'Algérie dénonce une sorte de manquement à l'éthique de la guerre par une utilisation abusive des drones contre les civils et de manière totalement irréfléchie.
Merci infiniment d'avoir pris quelques instants, Akram Karieff, chercheur à la Fondation Rosa Luxembourg. Latif, bonne journée au Togo, merci de votre fidélité. On va continuer à parler de l'Algérie, mais cette fois des relations entre l'Algérie et la France. Kassoum, bonjour.
Bonjour, Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous nous suivez à Bamako sur les réseaux sociaux, nous vous écoutons.
Oui, le ministre français des Affaires étrangères s'est rendu en Algérie pour pour tenter de calmer la crise diplomatique entre Paris et Alger. Alors, quels sont les engagements concrets pris à l'issue de ces entretiens avec les autorités algériennes sur les questions sécuritaires et migratoires?
Oui, Jean-Noël Barraud s'est effectivement rendu dimanche à Alger. Bonjour Khadija Mohsen Finan.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, spécialiste du Maghreb et du monde arabe, chercheur associé à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Tous les sujets, nous dit-on, ont été abordés. Alors, ce qui intéresse Kassoum, notre auditeur, c'est notamment la coopération franco-algérienne sur le plan migratoire. Qu'en est-il ressorti de ces entretiens que le ministre français a eu avec son homologue algérien, mais aussi avec le président Abdelmadjid Tebboune?
Oui, alors effectivement, parmi d'autres dossiers, la question des réadmissions et de la question migratoire a été considérée. C'est un dossier évidemment très sensible qui avait vraiment beaucoup exacerbé la crise entre les deux pays. Alors, ça a été évoqué parce que, rappelons-le, le ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, avait décidé d'engager un bras de fer avec Alger sur ce dossier qui a été repris en main par la diplomatie française. Et donc, le ministre Barraud a été obligé de trouver un compromis en traitant le dossier différemment, en décidant d'impliquer, si vous voulez, à la demande de l'Algérie, les consulats algériens dans la décision d'expulsion. Et il a été décidé qu'une rencontre allait avoir lieu entre les consuls algériens en France et les préfets français.
Et cette
Elle
rencontre
doit se tenir
cette semaine.
Assez vite.
Cette semaine,
absolument,
dit-on, effectivement. Absolument. Il nous reste une petite minute, Khadija Mohsen Finan, excusez-nous, mais le temps passe vite. Concernant la coopération sécuritaire, la coopération sur le terrorisme, que faut-il retenir ?
Il faut retenir que, en tout cas, au niveau des services de renseignement, elle va reprendre très vite. Elle avait été interrompue après la décision française de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Et je pense qu'elle elle a deux objectifs précis, la lutte contre le terrorisme d'une part et aussi un dialogue stratégique sur le Sahel face à l'alliance justement dont vous venez de parler sur votre antenne des États du Sahel. Et c'est une alliance qui est soutenue par Moscou.
Oui. Donc, l'Algérie qui, rappelons-le pour ceux qui n'ont pas la géographie en tête, l'Algérie est limitrophe du Mali et du Niger. Merci infiniment Khadija Mohsen Finan d'avoir été avec nous, politologue, spécialiste du Maghreb et du monde arabe. Bonne journée à tous, vous restez avec nous évidemment. On revient revient dans 10 minutes avec vos témoignages sur Kinshasa.